Cours de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe, le 17 mai 2001 à Saint-Jodard.
Mon père, la grande distinction des philosophes grecs anciens est-il être et le devenir? Pourquoi est-ce que la première vision de la sagesse est l'être et la vie et non pas l'être et le devenir? On peut discuter. Quand on est dans un jugement de sagesse, on a à la fois une rigueur beaucoup plus grande et une souplesse beaucoup plus grande. C'est toujours ce que je remarque. La sagesse vous donne une très grande souplesse. On n'a plus la logique. Alors que la logique vous donne un esprit étroit. Quand on a que la logique, la logique est très bien, mais ça risque toujours de vous donner un esprit étroit. Les gens qui oublient la métaphysique, qui savent plus ce que c'est, et qui tombent dans la logique. Ce qu'a fait la scolastique. Quand on fait la scolastique de quelqu'un, ça veut dire qu'on prend la logique. On prend le système. On en fait un système. On n'a plus la souplesse de l'analogie. Rien n'est plus souple que l'analogie. C'est déroutant, ça. C'est pour ça que si facilement, on croit alors que c'est plus précis. C'est beaucoup plus précis que la logique. Ça va plus loin comme précision. Alors, quand on est dans une vision de sagesse, c'est discutable. Au fond, la seconde division pour moi, c'est l'être et le devenir. Vous voyez, je ne veux pas la première. Parce que justement, la première, il me semble qu'elle est moins visible. Et c'est pour ça que c'est la première distinction. Elle est moins visible. Elle est plus profonde. Si je regarde actuellement le développement de la pensée qui s'est fait, par exemple, en Europe, je vois que le grand moment où l'athéisme a conquis la pensée, c'est Feuerbach, et c'est la confusion entre l'être et la vie. Alors, vous voyez, on fait la philosophie de notre monde. Les Grecs, je les aime, mais je ne les copie pas, nous ne sommes plus en Grèce. Nous sommes actuellement dans l'Europe qui se fait mal, elle se fait mal, mais nous sommes dedans, et ça nous fait mal. Nous sommes devant une Europe qui essaie de lutter comme elle peut contre l'Amérique. Économiquement. Pour équilibrer. Et c'est ça, tu vois. Alors, la fondation, la création d'une chose en 7 contre 1, c'est jamais heureux. C'est jamais heureux. Alors, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a les États-Unis d'Europe. Tu vois. C'est très différent. C'était naturellement naturel l'Amérique, les États-Unis. C'est artificiel l'Europe. Et c'est fait uniquement pour l'économie et en 7 contre 1. Alors, l'Europe est très difficile à unir, vous comprenez. Les pays sont vieux. Faites des vieux ménages, hein. Vous verrez ce que c'est. Ça va pas. Tandis que quand on est jeune, c'est bon, on peut s'allier. Alors, réfléchissez bien avant de... Je vous demande ça, c'est pas, je vous demande pas de me suivre, hein, mais d'y réfléchir. Parce que je crois vraiment que ça a été la cause de l'athéisme philosophique. Feuerbach a joué un rôle terrible. Parce que ce qu'il dit est pas bête, c'est très sophistique, mais c'est pensé quand même. Avec cette grande confusion de l'être et de la vie, la constante. Quand je lis Hegel, c'est la même chose. Oui, alors je vois d'un côté affirmation de Dieu, l'autre côté négation de Dieu. Affirmation de Dieu qui est fausse, à la manière de Hegel. Affirmation de la négation de Dieu, qui est évidemment totalement fausse. Et je vois que c'est la même erreur des deux côtés. C'est donc une erreur très fondamentale qui nous conduit à une fausse exaltation de Dieu, qui nous conduit à le rejeter. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, pour nous, c'est cette erreur-là qui me semble. Et indépendamment de notre aujourd'hui, si vous creusez bien, vous voyez qu'en effet, être et devenir, vous voyez, Maître Eckhart, que j'aime beaucoup, Maître Eckhart, il faut lire de temps en temps Maître Eckhart, parce que ça nous oblige de penser. Maître Eckhart dit ouvertement, Dieu ne crée pas la vie. Et, alors, si on lit ça comme ça de l'extérieur, on dit, oh quand même. Mais non, pas du tout. Vous voyez ? Alors, aux États-Unis, je vous citais ce texte, ben, Dieu crée la complexité de la vie. C'est de l'apologétique. Dieu ne crée pas la complexité de la vie. Il crée des êtres vivants. Ce n'est pas la même chose. Le regard du Créateur n'atteint pas la vie. Pourquoi ? La vie, c'est le « se movere ». Ah. Alors comment vous pouvez dire qu'en même temps, « se movere » est créé ? Impossible. Créer, Dieu crée des vivants suffisamment autonomes pour qu'ils soient des vivants. Et ils ont une autonomie. Si vous dites que Dieu crée la vie, vous ne pouvez plus comprendre l'autonomie. Vous ne pouvez plus comprendre la liberté. On est tous des petits pions qu'on pousse. Voilà, cette vision de Dieu créateur des coups de chiquenaude. Allez, alors, maintenant, pas du tout. Dieu crée des êtres vivants, des êtres intelligents, et Dieu respecte leur intelligence et leur vie. Il leur donne une autonomie. Et c'est ça le chef-d'œuvre. Si Dieu ne crée que des crapauds, et encore ils sont vivants, mais ils ne sont pas intelligents, loin que maintenant. Alors je crois que vraiment, c'est l'erreur, la distinction fondamentale. Dieu est l'être premier. Je ne dis pas que Dieu est le vivant premier. Vous voyez, alors ici je passe en théologie, hein, changeant de vitesse, mais ça sort en nota bene dans vos notes, surtout pas à la suite, mais à côté. Le point de vue surnaturel, c'est la vie. Dieu ne crée pas la grâce en nous. il nous la communique en Père. C'est une génération. Ce n'est pas une création. Jésus dit à Nicodème, naître de nouveau. Il ne dit pas créer de nouveau. Naître de nouveau, il communique la vie éternelle. Et c'est pour ça que si je regarde entitativement, donc du point de vue de l'être, la grâce, elle vient s'ajouter à la nature. La foi, elle vient s'ajouter à l'intelligence. Et ma vie est premièrement naturelle et elle est surnaturelle. Et c'est pour ça que quand je regarde la grâce du point de vue entitatif, du point de vue de l'être, je ne vois qu'un aspect et pas l'aspect propre, surnaturel. C'est par la vie que je comprends le plus profondément ce qu'est la grâce. Et non pas par l'être. Oui. Et ça, je vois donc bien, première distinction, distinguer l'homme naturel d'homme surnaturel. Dans ma vie, c'est capital. Or, si je ne distingue plus être et vie, je ne distingue plus grâce et nature. Immédiatement. Et gérontologisme. C'est très très important de saisir ces erreurs, ces points de départ d'erreurs, qui sont presque toujours des confusions. Il y a deux choses auxquelles il faut être très attentif. Ne pas faire des distinctions, des séparations. Et ne pas unir des choses qui sont distinctes. Oublier la distinction. Alors fait des aliénages, des mixtures, des amalgames. Appelez ça comme vous voulez, c'est un manque de distinction. Le manque de distinction, c'est, j'allais dire que c'est le péché originel de l'intelligence. Le manque de distinction, c'est fait qu'on est devant un mur, on ne peut pas avancer. Il faut l'intelligence pénétrante et celle qui distingue au bon moment. Il ne faut pas rater. Distinguer nettement et voir la première distinction. Alors, il y a la souplesse de la sagesse, mais en même temps la rigueur de la sagesse. Et je crois vraiment, parce que là, l'argument, c'est les anciens Grecs. C'est un argument historique. Ça ne vaut jamais grand-chose. Du philosophe, n'oubliez pas ce que dit Aristote, l'histoire est moins immédiatement métaphysique que l'art. Notre monde qui est particulièrement historique d'un côté des savants et artistique du côté des jeunes, les couper en deux, très nettement, vous avez le monde, vous voyez, de ceux qui sont plus âgés, et le monde des jeunes, nouvel âge. Et le nouvel âge, vous ne l'atteindrez pas par l'histoire, vous l'atteindrez par l'art. Alors c'est très intéressant, cette remarque d'Aristote, que l'art est plus proche de la philosophie. D'une certaine manière, notre monde d'aujourd'hui est beaucoup plus proche de la métaphysique que le monde d'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, c'était l'histoire qui prenait toute force. Et comme l'Église est toujours un peu en retard, elle ramasse après, C'est bien l'histoire quand c'est déjà terminé, c'est que c'est l'art. C'est très curieux, ça. Et il faut être attentif à ça. Il faut être très attentif à ce jour-là, parce que les jeunes d'aujourd'hui, je crois que vous le sentez, les jeunes d'aujourd'hui, tous, Camus l'avait dit, et Camus sentait les choses très bien. Camus avait dit, la morale aujourd'hui, pour les jeunes, c'est très difficile. Il faut qu'ils se cassent un peu la tête, plusieurs fois, pour qu'ils reviennent à la morale. Mais spontanément, non, au-dessus. Et Camus avait dit, c'est par l'art. Et là, je crois que Camus voyait très bien. Et Camus revenait à la foi, sûrement grâce à son épouse, qui était espagnole, Doran. Et qui avait la foi. Et il voulait que ses enfants aillent dans une école catholique, parce que c'était bien plus sérieux. Il avait le sens de ça. Et je crois qu'il nous aide à comprendre ça. Parce que il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Il faut pas être en retard. Donc, in altum. C'est justement marche devant. C'est marche devant. Et ne sois pas à l'arrière-garde, l'infirmerie. Quand je voyais certains couvents, je ne nomme pas les choses, dont l'infirmerie était très grande, presque aussi grande que le couvent. C'est comme ça, le monde se terminera en hôpital, comme il marche maintenant. Ça terminera en hôpital, c'est quand vous voyez les hôpitaux d'aujourd'hui, c'est très bien. Sinon, c'est pas très bien, mais c'est comme ça, quoi. Alors, réfléchissez bien à cette première distinction. Oui, je vous donne ces arguments actuels qui sont, je crois, très forts, parce que il faut, la première chose du point de vue philosophique, c'est justement d'essayer de montrer pourquoi l'athéisme a-t-il tant d'emprise. On a eu l'art de montrer que l'athéisme libérait l'homme. C'est juste inverse. Puisqu'il supprime la dépendance radicale à l'égard de Dieu. Il met l'autonomie au-dessus de tout. Donc il met la vie avant l'être. L'athéisme est toujours la vie avant l'être. Et il faut voir cette première distinction que nous voyons spontanément, la distinction entre la nature et la vie. Je sais bien qu'on a vu, dans la nature on voit l'être et le devenir, c'est sûr, positivement on voit ça. Il y a toujours les deux ordres, l'ordre génétique et l'ordre de sagesse, n'oubliez pas ça. Alors, dans l'ordre génétique, je crois qu'en effet, l'être et le devenir, c'est le premier dépassement. On découvre l'être en dépassant le devenir. Et parce que le devenir est sous-jacent à la vie. Mais la vie n'a pas comme premier caractère le devenir. Premier caractère de la vie, c'est le se movere. C'est l'autonomie. Mon père, pourriez-vous préciser la différence de regard être et vie sur l'indépendance de l'âme spirituelle par rapport à Dieu? Oui, la différence, elle est nette, elle est juste ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous ne voyez que la vie, vous voyez l'immanence de la vie, c'est mauvais. Et vous ne pouvez jamais découvrir Dieu par la vie. Vous découvrez Dieu par l'être, la transcendance. Quand vous dites ceci est, vous affirmez quelque chose qui est au-delà de vous, qui est transcendant. Même si c'est une réalité inférieure à vous, elle a ce quelque chose et le petit caillou, il est transcendant par rapport à moi, en ce sens qu'il a un être qui n'est pas le mien. La vie se comprend toujours de l'intérieur, par l'immanence. Alors, si vous restez toujours dans l'immanence, vous n'arriverez pas à rejoindre Dieu. Et vous ne pourrez pas rejoindre Dieu. Vous ne pouvez pas découvrir, vous ne pouvez pas découvrir l'existence d'un être premier en partant du vivant et en demeurant dans le vivant. Il y a un sophisme qu'il faut dépasser. On dira, mais la vie est plus parfaite que l'être. C'est plus parfait que le devenir. Donc, on ne doit pas découvrir Dieu. Et si je pars de l'amitié comme expérience, je prends l'expérience de l'amitié, pour faire attention, c'est-à-dire l'ami. Et l'ami, c'est la personne humaine. Donc, c'est l'être. Je ne peux pas découvrir Dieu par l'amour. Je le découvre par ceux qui suscitent l'amour. Ce qui suscite l'amour est la réalité que je connais la plus parfaite. C'est la personne qui est bonne. Et c'est elle qui suscite un amour spirituel, l'amour le plus profond que je connaisse. Et c'est par cet amour le plus profond que je connaisse, en tant qu'il est ordonné à l'ami, qu'il me permet, que je peux découvrir Dieu. C'est pas par l'amour en tant qu'amour, parce que là je suis en face justement de la vie. En telekeia. Donc, pouvez-vous préciser la différence de regard, être et vie, sur l'indépendance de l'âme spirituelle par rapport à Dieu? Découvrez cette différence par rapport à la découverte de Dieu. Par rapport à la découverte de Dieu, l'être me conduit à Dieu, la vie me conduit à l'homme. Ce qu'il y a de plus vital, c'est l'homme. Le maxime étalé de l'expérience vitale, c'est l'homme. Le maxime étalé dans l'être, c'est Dieu. Vous reprenez l'expérience de Nietzsche. Quand vous êtes en face de choses faites par l'homme, vous dites l'homme. Quand vous êtes en face de réalités naturelles qui vous dépassent complètement, vous dites Dieu. Dieu est-il père ou créateur de mon intelligence? Alors là, les Grecs, spécialement Sénèque, découvert la paternité de Dieu par le point de vue de l'intelligence. L'intelligence, c'est pour moi ce qui est de plus élevé dans la vie. L'intelligence et l'amour spirituel. Le choix de l'ami. C'est le vivant le plus parfait, c'est un vivant spirituel. Je ne connais pas de vivant plus parfait. Je connais des vivants moins parfaits, mais je ne connais pas de vivant aussi parfait et plus parfait. Donc, quand on est en face de la vie, et de la vie à son sommet, la vie intellectuelle, puisque Dieu ne crée pas la vie directement, en tant qu'il communique l'être intellectuel, en tant qu'il crée des êtres spirituels. Par le point de vue spirituel, j'atteins en Dieu sa paternité, et non pas Dieu créateur en premier lieu. J'atteins bien Dieu créateur par mon être, j'atteins bien Dieu Père par mon intelligence. Mon intelligence a quelque chose de très spécial, c'est qu'elle est la source de ma vie humaine dans ce qu'elle a de tout à fait spécial, de tout à fait original. Tout ce qui est en moi d'ordre qui touche à l'intelligence m'est propre. Tout ce qui en moi ne touche pas l'intelligence n'est pas propre à l'homme. C'est sûr. C'est pas propre à l'homme. La colère. C'est pas propre à l'homme. La douceur. Vous voyez, les passions. Les animaux ont des passions plus violentes que moi. La colère d'un chien, d'un ours, d'une lionne. C'est là où je découvre le mieux ce que c'est l'irascible. L'intelligence a. Donc, regardez Dieu créateur d'être intelligent. C'est regarder le créateur par rapport à l'être. C'est très bien, il le faut. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de caractéristique. Parce que c'est Dieu créateur qui atteint aussi des êtres non intelligents. Des êtres qui n'existent que dans le devenir. Dieu crée leur être. Il faut bien que dans ces êtres inintelligents, dans ces êtres qui n'existent que dans le devenir, il faut bien qu'il y ait un premier. Et le premier, c'est Dieu qui crée l'être d'une réalité qui n'existe que dans le devenir. Il atteint le devenir par l'être. Il atteint l'intelligence par l'être. C'est très très important ça, vous voyez. Quand on dit, l'autre jour il y avait quelqu'un qui me parlait de l'omniprésence. L'omniprésence, Dieu est partout, comme créateur. Alors on me dit, l'omniprésence, Dieu est tout entier dans un caillou. Oh. La vache sacrée. Dieu est tout entier dans la vache. En fait, attention. Vous pouvez dire que Dieu est en vous par l'esprit. Et votre corps, dans la mesure où est animé par l'esprit. Mais quand votre corps quitte l'esprit, c'est-à-dire quand vous entrez dans une fureur, vous laissez votre esprit dormir et vous sortez déchaîné. Est-ce que Dieu... Non, pas du tout. C'est le démon qui est dans ce déchaînement. Parce que très vite, il prend la place, ce démon. Dès qu'elle est vide, vous savez bien, le démon, quand Dieu fait sortir du muet, il demande d'aller habiter dans le cochon. C'est très curieux. Ça fait comprendre les goûts du démon. Et Dieu nous donne ça, cet évangile. Quand on doit prêcher cet évangile, on se dit, qu'est-ce qu'on va dire? Mais oui, il faut leur dire, c'est l'évangile qui nous fait comprendre les goûts des démons. Et c'est pour ça que Jésus nous le donne. C'est pas inutile. Le démon voudrait qu'on soit un petit cochon. Ah, il serait tout à fait à l'aise. Quand vous devenez un petit cochon, oh là là, là là. Dieu habite en Père dans l'intelligence, de ce point de vue spirituel. Mais autrement, on matérialise tout. Alors, il faut bien comprendre ça. Dieu dirige le monde comme créateur par le point de vue l'être. Et comme, quand il s'agit de l'intelligence, il conduit, il gouverne des êtres intelligents. Il ne gouverne pas des êtres intelligents comme il gouverne des êtres physiques. Nous l'avions vu au moment du gouvernement divin. Je le reprends, il faut le voir, c'est difficile à voir, mais c'est très important, et des quantités de théologiens oublient ça, parce que c'est, évidemment c'est de la philosophie. Alors ils oublient ça. Il y a une distinction fondamentale à faire entre être et vie. Si Dieu créait directement le vivant, il serait présent dans tous les vivants. Omniprésent dans le crapaud. Et l'erreur de considérer la vache sacrée, c'est considérer qu'elle vit. Ou de considérer les animaux sacrés, la tortue sacrée. Alors, pour l'intelligence, Dieu crée des êtres intelligents. C'est-à-dire, c'est là où immédiatement, on va regarder, notre intelligence participe à l'intelligence de Dieu. Et il crée notre intelligence en tant qu'elle est être. Je ne suis pas un être substantiel par mon intelligence. Donc, il crée mon âme substantielle en tant qu'il est substance. il crée des êtres substantiels. Dieu ne crée pas, en premier lieu, des êtres accidentels. L'accident n'est pas créé immédiatement par Dieu. La matière n'est pas créée immédiatement par Dieu. Parce qu'elle n'est qu'un être en puissance. Dieu ne crée pas la puissance. Il crée des êtres en acte. Ces êtres en acte n'existent que dans le devenir. Et par le fait même, Dieu les gouverne par des causes secondes. Et Dieu n'est pas cause seconde. Dieu est toujours cause ultime et la cause propre de l'être. Il faut être très précis là-dessus. Autrement, on tombe dans toutes les confusions. Alors, lorsqu'il s'agit de l'intelligence, il crée mon âme spirituelle. Et mon âme spirituelle fait que je participe. L'avantage de la participation, vous savez que c'est un très gros problème au point de vue philosophique, ça. Il faudra sans doute le regarder dans un jugement de sagesse. C'est la seule façon de s'en tirer. Mais il y a eu des grosses discussions, d'énormes discussions. Le père Geiger, dominicain, a fait sa thèse sur la participation dans saint Thomas. En gros, Platon, c'est la participation. Aristote, la causalité. Et ceci revient, parce que dans Hegel, il ne peut y avoir que la participation. Il ne peut pas y avoir la causalité. Et ce pas. Donc, au fond, la grande distinction entre Platon et Aristote, c'est l'être et l'un, et en second lieu, la participation et la causalité. La participation n'implique pas toujours la causalité. Et la participation peut impliquer la causalité. Quand nous disons que nous participons l'être, l'être de Dieu, c'est pas un langage très précis, ça. En réalité, l'être est causé par Dieu. Et mon intelligence participe à l'intelligence de Dieu. Et mon intelligence n'est pas causée directement par Dieu. Elle participe. Comme le mot le dit, participation, c'est recevoir une partie d'un tout. Et vous participez, vous comprenez ça très bien, quand on découpe une tarte, on participe à la tarte, mais seulement par une tranche. Et on regarde la plus grosse pour mieux participer. Parce que ce serait trop gros de prendre le tout. Là, on ne participerait plus. Mais on participe à l'intelligence de Dieu. Mais on est causé dans son être. On reviendra là-dessus. Parmi jugements de sagesse, il y aura participation et causalité. Vous me rappellerez, c'est une distinction très très importante. Il y a un Italien qui a beaucoup écrit là-dessus, le nom m'échappe, ça fait rien, facile à trouver. Un Italien thomiste qui a écrit sur participation et causalité. Ça fait partie de la compréhension de saint Thomas. De croire que la participation n'existe que dans Platon, c'est faux. Chez Aristote, dans le De Anima, parce qu'on est à la vie, Aristote parle toujours de participation. Et en métaphysique, il dit que la participation ne sert à rien. Parce que si la participation remplace la causalité, on tombe dans l'ontologisme. Mais on le verra, ça, particulier. Alors, Dieu, comme un père, communique son intelligence. Communiquer, c'est pas causer. Il communique, ça émane de Dieu. C'est notre être spirituel qui est créé, qui est causé. Et l'intelligence, comme intelligence, participe à l'intelligence divine. Et elle est ouverte à l'être. Ça, nous le verrons. Donc, première distinction de sagesse, comme dans un jugement de sagesse, dans tout être créé, distinguons bien l'être et la vie. Et l'être n'est créé qu'en tant qu'être. C'est le propre de la création. La vie, comme telle, n'est pas créée. Si vous confondez être et vie, alors vous tombez dans ce qu'on appelle l'ontologisme. Et c'est la maladie terrible de Hegel et Feuerbach, l'opposé. C'est bien de voir ces deux totalement différents. Rien ne peut être plus opposé à Feuerbach que Hegel. Là, c'est l'opposition complète. Pour Feuerbach, l'être est absorbé par la vie. On ne voit plus ce qu'il y a de propre. Et pour Hegel, la vie absorbe aussi l'être, mais de deux façons totalement différentes. Mais tous les deux font cette confusion être et vie. Et tous les deux, faisant cette confusion, aboutissent à deux conclusions diamétralement opposées. Quand on est dans l'erreur, on peut aboutir à deux conclusions totalement opposées. C'est pour ça qu'on ne doit pas tellement lutter contre les conclusions, mais contre l'erreur. Et la cause de l'erreur, c'est justement ce manque de distinction entre être et vie. Et ce manque de confusion entre être et vie aboutit à ces deux positions diamétralement opposées, Feuerbach et Hegel. La seconde distinction, il y aurait beaucoup d'autres choses à développer, hein, mais je crois qu'il faut voir un peu toutes les distinctions, plutôt que de rester entièrement sur celle-là. Elle est capitale, celle-là. Et je vous dis, il suffit de regarder ces deux pôles de la philosophie, Feuerbach et Hegel, pour se rendre compte combien cette distinction est capitale. Et elle est très difficile à faire pour nous, à cause de l'hégélianisme, à cause de la phénoménologie, où on ne regarde que le vécu. Et le vécu, c'est nécessairement le fruit de la vie. de la vie de l'intelligence, de la vie de l'amour. Il y a une phénoménologie de l'esprit intellectuel, une phénoménologie de l'amour. Une phénoménologie dans l'ordre de l'art. Tout ce qui est vécu. Or, le vécu est très divers. Hein. Alors, seconde distinction. Dans l'ordre de l'être, la distinction de l'être et du devenir. C'est une distinction très, très importante pour bien comprendre que Dieu ne crée pas le devenir. Il crée des êtres qui ne sont être que dans le devenir. Vous voyez, c'est la confusion complète entre création et évolution. L'évolution est dans le devenir, c'est évident. C'est un devenir positif. Ce n'est pas un désir univoque, horizontal, ou un désir qui baisse. Hein? Parce qu'il y a trois positions dans le devenir. On monte, on reste au plateau, on dégringole. Vous avez donc trois devenirs. Et cela, ça se voit dans la vie. Le petit gosse, il progresse, il sort de sa mère. Il commence dans les entrailles de sa mère pour être dans un berceau, puis il sort du berceau pour s'être dans un jardin d'enfants. Et il sort du jardin d'enfants. On a un devenir qui monte. Nous avons un désir qui monte. Puis il y a un haut plateau qui dure plus ou moins longtemps. Où ça ne grandit plus, mais ça augmente l'horizon. Et puis, à un moment, on dégringole. Et on dégringole plus vite qu'on monte. Toujours. Donc, vous avez schématiquement trois devenirs typiques. Un être en devenir ne peut pas rester immobile. Au fond, nous ne sommes jamais immobiles. Hein. On est immobile comme un arrêt pour monter, un arrêt pour descendre moins vite. Il n'y a pas, donc la première, deuxième distinction, Dieu crée l'être et crée l'être dans un devenir. Parce qu'il crée des êtres avec une potentialité. Dieu crée des êtres avec des potentialités, c'est-à-dire avec des possibilités de se développer. Alors, le développement, où il est positif, dans la vision du développement, de l'évolution. Dans l'évolution, nous allons vers un être encore plus parfait que l'homme. Il n'est pas encore venu, hein, mais nous allons vers un être plus parfait que l'homme. On ne sait pas ce qui sera. vieillard du jardin. C'est très net, c'est une vision d'évolution extraordinaire. Qui peut séduire, c'est séduisant ça. Il y a une vision où le devenir reste marqué par la nature. C'est la vision que nous donne l'Arche de Noé. Il faut emmagasiner toutes les espèces pour que ça reste. Il y a une espèce de haut plateau. Et puis, il y a une vision du devenir décroissant, le devenir dans la vie. La chute. Notre corps, il connaît les trois devenirs. C'est très possible. Les trois devenirs sont très différents. Ils sont l'être existe dans le devenir montant, l'évolution, dans la mesure où l'évolution existe. Mais ça ne touche pas l'être. Alors que la création touche l'être. Et c'est pour ça que l'évolution, très bien, je la constate. Puisque le devenir est objet d'expérience. L'être n'est pas objet d'expérience. Il est connu par la seule intelligence. Donc, au-delà de l'expérience, l'expérience est toujours en contact avec le devenir, mais au-delà de l'expérience, il y a l'être que mon intelligence détecte. Parce que l'être peut être séparé du devenir. Alors on a des êtres immortels. Des êtres qui ne connaîtront pas le devenir. Ils sont participation de l'éternité. Et puis des êtres qui sont vraiment enfoncés dans le devenir et qui n'existent que dans le devenir. Les petits animaux n'existent que dans le devenir. La mort touche leur être parce qu'ils ne sont que dans le devenir. Tandis que pour nous, la mort ne touche pas notre être. Nous mourons en raison de tout ce qui en nous est dans le devenir. La mort, on se libère du devenir. Et seul ce qui est au-delà du devenir existe. C'est la manière dont on voit la mort au point de vue du jugement de sagesse. Et Platon voyait la mort, justement, cette libération du corps qui, en moi, est toujours incliné vers le corruptible. Pas toujours, parce que chez l'enfant, la note dominante, c'est la croissance. Un enfant qui meurt jeune, c'est pas normal. Hein, parce qu'il y a en lui une loi de croissance. Un enfant qui, à 3 ans, attrape le cancer, c'est pas normal. Hein, c'est un signe que il y a quelque chose qui va plus. Alors, faut saisir cette seconde distinction, être et devenir. Par rapport à Dieu, c'est-à-dire dans un jugement de sagesse. Dans un jugement de sagesse, nous dépendons radicalement de Dieu dans notre être. Dans notre devenir, Dieu nous laisse le rythme particulier de notre devenir. Thank you.